Alors en Amérique, l'écologie est née plutôt qu'en Europe, d'une certaine manière, parce que à la fin du 19e siècle et au début du 20e, disons jusqu'à la guerre de 14, ils vont avoir une série d'ouvrages qui vont sortir, qui sont écrits par des gens qui sont les premiers fanatiques de la protection de la nature.
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de L'histoire de la révolution écologiste, publié aux éditions Webeck, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
Aux États-Unis, il y a, tout le monde le sait, des grands espaces naturels assez phénoménaux. Il y a un souci de la protection de la nature qui viendra très tôt, puisque les premiers parcs protégés naîtront aux États-Unis dès le début du siècle, amenés par la réflexion de gens qui vivent parfois en pleine nature, qui s'inspirent de Thoreau, qui s'inspirent des premiers pionniers, enfin des gens qui vivent dans les bois, et qui écrivent des livres magnifiques qui ont malheureusement été traduits très tard en France. Ils sont d'ailleurs traduits pour la plupart aux éditions Webeck dans une collection spécifique. Des gens comme John Muir, des gens comme ça, et qui vont profondément marquer la pensée de la nature et la pensée pré-écologique aux États-Unis. Et tous les prémices de l'écologie politique aux États-Unis tournent autour de ça, la protection de la nature. C'est seulement dans les années 50 que va arriver une deuxième composante extrêmement importante, qui va être les gens qui vont dénoncer les grands scandales de la pollution due à l'ultracapitalisme américain. Alors, il y a des livres emblématiques comme Le printemps silencieux de Rachel Carson, qui a été une bombe à l'époque, qui a été le premier livre qui a dénoncé vraiment les dégâts des pesticides. Il y a eu des livres de Barry Commoner, il y a eu des livres comme ça. Et puis, il y a eu aussi, mais ça va avec, des gens qui ont commencé à dénoncer le monde de la surconsommation et des dégâts que ça entraîne. Et donc le mouvement consumérisme aux États-Unis joue un rôle politique beaucoup plus important qu'en France. Alors la grande vedette de ça, c'est un garçon qui s'appelle Ralph Nader, qui lui l'a fait à l'américaine. C'est-à-dire qui a monté une organisation, qui a commencé à mobiliser des juristes, des avocats, qui a commencé à faire des procès aux très 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 grandes firmes, et stupeur, il en a gagné quelques-uns. Donc évidemment, il s'est beaucoup fait remarquer. Quand les mouvements d'écologie politique vont apparaître aux États-Unis, quand le Green Party va commencer à naître, alors vous savez, aux États-Unis, bon, étant donné l'immensité du territoire, les Verts sont organisés par État. Mais ils ont quand même une coordination, et lorsque se posera un jour la question de savoir si pour la propagande, il serait pas bon qu'il y ait un candidat à la présidence des États-Unis, tout naturellement, ils vont penser à Ralph Nader. Et Ralph Nader sera à plusieurs reprises candidat à la présidence des États-Unis, candidat relativement crédible, puisqu'on l'oublie souvent, mais il arrive la plupart du temps troisième après les deux grands partis, parce qu'il y a souvent quand même plus de deux candidats à la présidence des États-Unis à chaque fois. Et même une fois, il frôlera les 5%. Je pense qu'il ferait des scores beaucoup plus importants si les moyens financiers qu'il faut mettre en œuvre pouvaient se déployer de façon à ce que sa candidature se fasse dans tous les États. Or, dans l'ensemble des États américains, ça coûte tellement de milliards de dollars qu'évidemment, le Green Party ne peut absolument pas financer ça. Et même Nader, qui sait faire tomber de l'argent, pas en faire tomber à ce point-là. Donc il est obligé de se présenter que dans certains États, et dans certains États, il a fait des cartons. Alors, il a été candidat pour les Verts de mémoire deux fois, après il s'est présenté un peu en candidat libre. Ça reste une des grandes figures de l'écologie politique aux États-Unis, même si je pense que son souci n'est pas tellement d'être actif à l'intérieur du parti. Je pense que c'est une figure un peu extérieure. Il fait très 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 peur aux démocrates parce qu'évidemment les gens qui votent pour Nader sont plutôt les gens disons de gauche Et ça fait autant de voix en moins. Alors on l'a accusé à un moment d'avoir fait chuter Al Gore face à George Bush. Mais je pense que si Al Gore avait été malin, il aurait fait un ticket avec Nader et ils auraient été en tandem à la présidence des États-Unis. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.